Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Changement, paradoxe et psychothérapie est un essai théorique et clinique publié à l'origine sous le titre Change. Principles of Problem Formation and Problem Resolution. Paul Watzlawick l'a coécrit avec John H. Wickland et Richard Fish, chercheur associé au Mental Research Institute de Palo Alto et à son Brief Therapy Center. L'ouvrage ne propose pas une théorie de la personnalité ni une enquête sur les causes profondes des troubles. Il examine plutôt la manière dont des problèmes se maintiennent dans les interactions, notamment lorsque les tentatives habituelles de solution deviennent elles-mêmes une partie du problème. Son ambition est de rendre intelligible le changement thérapeutique en s'appuyant sur la théorie des systèmes, les paradoxes logiques et l'observation de situations concrètes. Les auteurs développent une distinction devenue célèbre entre les modifications qui préservent le cadre d'un problème et celles qui transforment ce cadre. Dense mais orienté vers la pratique, le livre constitue un texte majeur de la thérapie brève et de l'approche systémique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le problème persiste lorsque la solution habituelle alimente le cercle vicieux. Le point de départ de changement est moins la recherche d'une cause initiale que l'analyse d'une séquence présente. Les auteurs demandent ce que les personnes font pour résoudre une difficulté, puis observent comment cette réponse peut consolider ce qu'elles cherchent à éliminer. Une conduite raisonnable prise isolément peut devenir inefficace dès lors qu'elle est répétée dans un contexte où elle produit toujours le même effet. Par exemple, vouloir obtenir davantage de réassurance, exercer davantage de contrôle ou éviter systématiquement une situation pénible peut offrir un soulagement immédiat, tout en renforçant à terme l'inquiétude, le conflit ou l'évitement. Le problème n'est donc pas réduit à un défaut interne d'un individu. Il est envisagé comme un système de comportement et de communication qui se stabilise par rétroaction. Cette perspective déplace le travail thérapeutique. Il ne s'agit pas d'abord de découvrir une explication cachée, mais de repérer avec précision la solution tentée, sa logique, ses effets et les conditions qui la rendent répétitive. Cette focalisation sur le fonctionnement actuel permet de viser une intervention limitée mais décisive, interrompre le mécanisme qui entretient l'impasse. Elle explique aussi pourquoi une intensification du bon sens peut parfois produire l'effet inverse de celui qui était recherché. Deuxièmement, changement 1 et changement 2, modifier une conduite ou modifier le cadre, la distinction entre changement 1 et changement 2 fournit l'armature conceptuelle du livre. Le changement 1 désigne les variations qui se produisent à l'intérieur d'un système dont les règles restent inchangées. Elles peuvent être réelles et parfois utiles, mais elles ne remettent pas en question la définition même du problème. Augmenter les efforts, alterner entre deux réponses opposées ou ajuster l'intensité d'une réaction relève souvent de ce niveau. Lorsque ces essais se succèdent sans sortie durable, ils contribuent à la permanence du système. Le changement 2 intervient à un niveau différent, il transforme les règles, les prémices ou la manière de cadrer la situation. Il ne consiste pas simplement à faire plus ou moins de la même chose. Il rend possible une réponse qui paraissait auparavant absurde, interdite ou impensable. Les auteurs s'appuient ici sur la théorie des types logiques pour montrer qu'un système ne peut pas toujours résoudre ses propres contradictions en restant sur le même plan. En psychothérapie, cette distinction protège contre une erreur fréquente, traiter une difficulté exigeant une redéfinition par de simples ajustements comportementaux. Elle souligne que le changement profond peut être bref, car sa portée dépend moins de sa durée que du niveau auquel il modifie l'organisation du problème. Troisièmement, le paradoxe comme outil pour dénouer des injonctions contradictoires. Les paradoxes occupent une place centrale parce qu'ils révèlent les limites d'une communication fondée sur des injonctions incompatibles. Certaines situations imposent simultanément deux exigences contradictoires, tout en empêchant de commenter cette contradiction ou de se soustraire à la relation. Dans un tel contexte, obéir à une demande peut signifier désobéir à une autre, et toute tentative de réponse paraît confirmer l'échec. Les auteurs relient cette question aux travaux logiques et aux recherches de Gregory Bateson sur la communication humaine. Leur intérêt thérapeutique ne réside pas dans le goût de la formule surprenante. Une intervention paradoxale vise à modifier la position de la personne face aux symptômes ou à la règle qui régit son comportement. Prescrire de façon soigneusement cadrée une conduite redoutée ou apparemment involontaire peut, dans certaines circonstances. Déplacer le rapport au contrôle et rendre visible la structure de l'impasse. Une telle technique exige toutefois une lecture précise de la situation, de la relation thérapeutique et des risques d'incompréhension. Le livre ne présente donc pas le paradoxe comme une ruse universelle. Il l'inscrit dans une stratégie rigoureuse, faire cesser la répétition des solutions inefficaces et ouvrir une possibilité de changement de cadre. Sa portée tient à cette fonction structurale, non à son caractère spectaculaire. Quatrièmement, une thérapie centrée sur le quoi présent plutôt que sur le pourquoi lointain. Changement se distingue des démarches qui font de la reconstruction historique ou de l'interprétation des motivations inconscientes la voie principale de la thérapie. Les auteurs privilégient l'étude du quoi que se passe-t-il concrètement, qui réagit à quoi, dans quel ordre et quelles tentatives de résolution sont mises en œuvre. Ce choix ne nie pas l'importance de l'histoire individuelle ou de la souffrance subjective. Il soutient qu'une compréhension causale très élaborée ne garantit pas, à elle seule, une modification du problème. Une personne peut connaître les origines supposées de sa difficulté tout en restant prise dans les mêmes interactions et les mêmes réponses. L'analyse du présent permet au contraire de formuler un objectif opérationnel, de reconnaître les séquences répétitives et de tester une intervention proportionnée. Cette orientation explique l'affinité de l'ouvrage avec la thérapie. Bref, le praticien cherche un levier dans l'organisation actuelle plutôt qu'une explication totale de la personne. La brièveté ne signifie ni superficialité ni promesse de solution instantanée. Elle découle de l'hypothèse selon laquelle un déplacement ciblé dans une boucle relationnelle peut avoir des effets plus larges. Le texte propose ainsi une discipline d'observation utile au-delà du cabinet, notamment pour analyser les conflits où chacun répond à une difficulté en renforçant involontairement la réaction de l'autre. En dernier lieu, la pensée systémique relie psychothérapie, logique et relations humaines. L'originalité intellectuelle de l'ouvrage vient de son effort pour articuler plusieurs domaines sans les confondre. Les auteurs mobilisent des notions issues de la logique, de la théorie des systèmes et de l'étude de la communication afin d'éclairer des difficultés humaines concrètes. Un symptôme ou un conflit n'est pas traité comme un objet isolé, il prend sens dans un réseau de règles, d'attentes, de réponses et de définitions partagées. Cette approche systémique invite à examiner les effets circulaires plutôt que de chercher trop vite un responsable unique. Dans une relation, la réaction de chacun peut être à la fois une réponse à l'autre et une condition de sa réaction suivante. Le livre évite ainsi une vision simpliste selon laquelle il suffirait de corriger un comportement fautif. Il s'intéresse au cadre qui rend ce comportement prévisible et durable. Cette perspective a fortement contribué à la thérapie familiale, aux approches interactionnelles et à la réflexion sur la communication. Elle comporte aussi une exigence de prudence appliquée à un schéma systémique sans tenir compte de la gravité clinique. Des rapports de pouvoir ou de la sécurité d'une personne seraient réducteurs. La valeur durable du texte tient moins à des recettes qu'à une méthode de raisonnement, situer une difficulté dans ses boucles de maintien et chercher le niveau pertinent pour intervenir. En conclusion, Changement, paradoxe et psychothérapie s'adresse en premier lieu aux psychothérapeutes, psychologues, étudiants en sciences humaines et professionnels de l'accompagnement qui souhaitent comprendre les fondements de l'approche brève et systémique. Il intéressera aussi les lecteurs familiers des conflits relationnels, de la communication ou de la théorie des systèmes, à condition d'accepter une écriture conceptuelle parfois exigeante. Son bénéfice pratique est de fournir une grille d'observation nette, décrire le problème dans le présent, identifier les réponses qui l'entretiennent, puis distinguer ce qui relève d'un ajustement interne de ce qui exige un changement de cadre. Cette grille ne remplace ni une évaluation clinique attentive, ni une prise en charge adaptée aux situations graves. Elle aide néanmoins à éviter l'escalade des efforts inefficaces et les explications psychologisantes trop rapides. Sur le plan intellectuel, le livre éclaire la manière dont des outils logiques peuvent renouveler l'analyse des relations humaines sans ramener celles-ci à de simples mécanismes, par rapport à de nombreux ouvrages de développement personnel ou de vulgarisation thérapeutique. Il se démarque par son ancrage dans les travaux du Mental Research Institute et par sa réflexion précise sur les paradoxes. Par rapport au manuel technique, il conserve une ambition théorique plus large, expliquer comment les problèmes se forment autant que comment ils se résolvent. Cette alliance entre rigueur conceptuelle, attention aux interactions observables et réflexion sur le changement fait de ce texte un repère durable, malgré le caractère parfois daté de certaines formulations et de certains exemples cliniques. Si vous souhaitez soutenir Paul Watzlawick, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.